Europe 1, il est 7h.
Il y a quand même une petite inquiétude, on va dire. On prend nos précautions. Y aller le plus vite possible et puis peut-être soit le matin de bonne heure, soit le midi pendant que les gens mangent pour éviter l'influence.
Quelle participation pour le second tour des municipales à J-2. Les communes et départements déploient toujours plus de moyens pour la sécurité sanitaire des bureaux de vote. Nous serons en Vendée dans un instant. 6 milliards d'euros pour augmenter les salaires des personnels soignants. Oui, mais à partager entre public et privé. Grosse déception pour les infirmiers que nous suivons depuis le début de la crise.
Comment une enveloppe pareille peut être présenté à des soignants. C'est limite un manque de respect, c'est épuisant parce qu'on ne nous écoute pas en fait.
Dans ce journal également, exonéré de cotisations sociales, les entreprises qui embauchent des jeunes, la piste du gouvernement pour éviter une génération sacrifiée. Faut-il interdire les pubs pour les aliments trop gras, trop salés, trop sucrés aux heures de grande écoute à la télé pour les enfants? Et puis comment relancer l'activité dans nos campings malgré les cigales? C'est morne pleine en ce moment dans le sud-est alors que la saison doit débuter.
Les touristes n'arrivent pas. Très peu d'Allemands, très peu d'Hollandais, mais les retraités, je ne les ai pas vus cette année. La peur, psychose.
Juste après ce journal, 30% des guéris du Covid pourraient avoir des séquelles. Pas forcément visibles de prime abord. Votre rendez-vous santé avec le docteur Jimmy Mohamed. 7h15, l'innovation Anis Mbida qui nous parle des taxis électriques qui se rechargent sans fil. C'est en Norvège. Et puis enfin 7h20, le monde bouge. Des chiffres du chômage positifs, mais en trompe-l'œil, nous dira Axel de Tarlé. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1, il est déjà 7h02.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Théo Manval.
L'abstention ce dimanche sera-t-elle encore plus forte que le 15 mars dernier? 6 électeurs sur 10 pourraient déserter les urnes pour le second tour des municipales. L'inquiétude liée au coronavirus reste évidemment très présente et les collectivités locales mettent encore plus de moyens pour sécuriser les bureaux de vote.
En Vendée, par exemple, l'État fournit 80 000 masques, plus de 1 500 visières de protection aux 15 communes concernées par ce second tour. Alors, suffisant pour rassurer? Pas sûr, François Coulon.
À Saint-Hilaire-de-Riez, l'État a 1000 paquets, 150 visières, 7000 masques et 36 flacons de gel pour 11 000 électeurs et 88 assesseurs. Sandrine Adria, responsable d'un bureau de vote.
On est sûr d'avoir un masque, on a des visières, le gel aussi est à portée de main. Je peux accueillir 3 personnes dans le bureau en même temps. Donc ce sera à moi de leur dire aux autres, bah, merci d'attendre dehors.
Seulement 3 assesseurs ont déclaré forfait pour ce second tour. Ils étaient une quarantaine à faire défection le 15 mars. Anne Suir, responsable des élections.
Au premier tour, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de visière. On a eu toute la période de confinement qui nous a permis de se mettre en ordre de marche.
Jusqu'au bout, il faudra rassurer. Christelle ira voter sur la pointe des pieds.
Il y a quand même une petite inquiétude, on va dire, voir les gens devant, les gens derrière. On prend nos précautions. Y aller le plus vite possible et puis peut-être soit le matin de bonne heure, soit le midi pendant que les gens mangent pour éviter l'influence. On voit qu'il y a un petit peu plus de morts qui reviennent, donc ça refait un petit peu peur et puis on pense à la deuxième vague, forcément.
Ici, la moitié des électeurs ont plus de 60 ans. Ils veulent bien voter, mais sans danger. Saint-Hilaire-de-Riez, François Coulon, Europe.
Un premier avion a décollé il y a moins d'une heure de l'aéroport d'Orly. Cela faisait 3 mois que le deuxième aéroport français était à l'arrêt. Reprise encore très partielle, seulement 10% du trafic.
Au volet sanitaire, le nombre de patients en réanimation continue de baisser, 21 nouveaux décès en 24 heures. Et hier, le ministre de la Santé a annoncé une multiplication des tests dans les zones encore à risque, ainsi que 6 milliards d'euros pour les salaires des soignants.
Ah oui, mais une enveloppe qui sera répartie entre secteurs public et privé. On avait rencontré, souvenez-vous, il y a quelques semaines, des infirmiers de l'hôpital public obligés de cumuler des gardes dans le privé pour joindre les deux bouts. Ils espéraient beaucoup des aides promises pour leur secteur. Et pour eux, l'annonce d'hier fait l'effet d'une douche froide. Romain Hoquet.
C'était il y a un mois. Anne-Claire et Fabien racontaient leur quotidien marathon. Infirmier la nuit pour 1 600 euros et le jour, l'obligation de compléter leurs revenus. Fabien est alors formateur dans une école.
Il faut que je fasse ces cours parce que sinon, en fait, à la fin du mois, je ne peux pas me payer à manger ou c'est juste intolérable.
Anne-Claire, elle, enchaîne les heures dans une clinique.
C'est arrivé qu'à la fin de ma garde, j'aille refaire 12 heures de travail pour ensuite recommencer, sans temps de repos. Le moment où on rentre chez soi, moi, ça m'arrivait de m'endormir en voiture, par exemple.
Tous deux en étaient sûrs. Après la crise du Covid, leur salaire serait enfin revalorisé. Mais depuis, le ministre a posé 6 milliards d'euros sur la table à partager entre l'hôpital public et le privé. Le jeune infirmier est désabusé.
Comment une enveloppe pareille peut être présenté à des soignants? C'est limite un manque de respect. Je pense très sincèrement qu'on va avoir, oui, quelques euros de plus. Mais nous, on avait demandé 300 euros mensuels. C'est épuisant parce qu'on ne nous écoute pas, en fait.
À cette déception s'ajoute une autre crainte, que les conditions de travail non plus ne s'améliorent pas. Dans le service de Fabien, il manque, dit-il, 22 temps plein.
Et puis il y a une région où la situation ne s'améliore pas non plus, loin de là, c'est la Guyane. Le nombre de cas continue d'augmenter. Un avion de l'armée sera dépêché demain pour évacuer des malades vers la Guadeloupe et la Martinique.
Europe 1, il est 7h05.
Sur le front économique, ces chiffres toujours plus alarmants. Plus de 460 000 emplois menacés dans l'industrie en France d'ici 2 ans, si rien n'est fait, selon une étude du cabinet PwC.
Et dans ce contexte, comment éviter une génération sacrifiée? On vous en parlait sur Europe 1 en début de semaine. Le gouvernement est en train de finaliser ses mesures pour l'emploi des jeunes. C'est votre éclairage éco ce matin, Nicolas Barré.
Oui, en effet, les choses se précisent. Le gouvernement met les bouchées doubles pour éviter que trop de jeunes se retrouvent sur le carreau à la rentrée. Alors, plusieurs pistes sont étudiées, mais il y en a surtout une très puissante et donc forcément coûteuse qui tient la corde. Une entreprise qui embaucherait un jeune serait carrément exonérée de cotisations salariales. En clair, l'employeur paierait le jeune normalement, mais ne verserait rien à l'URSSAF. Ce serait donc un gain de trésorerie énorme pour l'entreprise qui pourrait utiliser cet argent pour investir.
Reste à définir les critères de cette mesure.
Oui, alors, je précise un point, bien sûr, le jeune embauché aura tous ses droits sociaux même si l'employeur ne cotise pas. C'est ce qui coûte cher dans ce genre de mesure, puisque c'est l'État qui paye la facture, laquelle pourrait grimper jusqu'à 10 milliards d'euros. Tout va dépendre de l'étendue de cette mesure jeune, jusqu'à quel niveau de salaire, deux fois et demi le SMIC, jusqu'à quel âge un jeune embauché sera-t-il toujours considéré comme jeune? Est-ce que les jeunes déjà en place seront concernés? Bref, les réponses à ces questions se chiffrent en milliards, mais la volonté politique est claire. Pas question que les jeunes sur lesquels pèse déjà une dette publique énorme soient massivement victime de la crise du Covid.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Votre éclairage tous les matins dans le journal de 7h.
Encore un chiffre à présent et il est sidérant. Plus de la moitié des publicités alimentaires vues par les enfants à la télé concernent des produits trop gras, trop salés, trop sucrés. Alors, faut-il les interdire entre 19h et 22h au moment des films ou des émissions de télé-réalité? C'est ce que préconise l'Agence Santé Publique France.
Car aujourd'hui, cette interdiction ne vaut qu'au moment des programmes pour enfants regardés par 0,5% des moins de 18 ans. C'est pas grand-chose. Santé Publique France espère donc, avec cette étendue, lutter contre le surpoids. Virginie Salmen, est-ce qu'une telle mesure a des chances d'être efficace?
Le mécanisme a été démontré dans des dizaines d'études. Si on propose à un enfant des céréales vues à la télé et des céréales neutres, il va préférer le goût du produit de la publicité. Et rares sont les publicités pour les fruits et légumes. Les enfants voient à plus de 50% des pubs pour les produits les plus gras, salés ou sucrés du marché. Le Canada, la Suède ou l'Angleterre ont déjà testé l'interdiction, ce qui nous donne un certain recul sur l'efficacité de la mesure selon Anne-Juliette Seri, l'auteur de l'étude.
Ça a un certain impact sur la réduction de la publicité. Mais cet impact finalement peut être assez facilement contourné parce que par exemple on interdit la publicité à la télé et on voit que finalement il y a davantage de publicité sur internet. C'est pour ça qu'on préconise vraiment un encadrement plus global, c'est-à-dire une interdiction de la publicité à certaines tranches horaires, à la fois sur la télé et à la fois sur internet, qui représente plus de 80% des investissements publicitaires des industriels de l'agroalimentaire.
En France, 17% des enfants de 6 à 17 ans sont en surpoids, dont 4% sont obèses, une tendance qui ne baisse pas depuis une dizaine d'années.
Bonjour docteur Laurence Plumet.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste, auteur du livre « Le monde merveilleux du gras, tout sur ses rondeurs qui nous habitent » aux éditions Erol. Alors c'est la chose à faire, hein, d'étendre cette interdiction à tous les programmes en prime time, ça peut changer la donne?
Oh, je pense pas énormément. Enfin, la com a toujours existé et elle existera toujours, hein. C'est très bien fait. Ce sont des histoires, des personnages, des valeurs et l'enfant s'identifie. Donc, d'accord, ça marche sur certaines catégories d'enfants. Mais pour moi, l'impact de la pub sur le comportement de l'enfant, c'est vraiment un épiphénomène dans la prévention de l'obésité. Pour moi, l'enjeu majeur, c'est l'éducation. C'est connaître pour bien agir. Et là, l'école, elle a un rôle majeur à jouer parce que l'enfant, il passe quand même beaucoup de temps et je trouve qu'il faudrait y faire vraiment des animations sur les aliments, la santé, ce qu'est une alimentation équilibrée.
Bah, les parents comment... aussi un peu, les parents aussi un
mais
peu
absolument.
Peut-être.
Mais absolument. Alors justement, ce que l'enfant va apprendre à l'école, il va le décliner à la maison et pour peu que les enfants soient sensibilisés à cette notion, donc il faut leur apprendre ça aussi. Il y a des gens qui pratiquent l'équilibre alimentaire de façon spontanée et d'autres pas du tout. Donc il faut leur apprendre à équilibrer des repas, à introduire systématiquement des légumes en plus des féculents. Il faut que les goûters soient des biscuits. Certes, il ne s'agit pas de les interdire, mais qu'avec les 2-3 biscuits et pas le paquet, il y a un fruit. Puis il faut bouger aussi. C'est très important dans la prévention de l'obésité, qu'il y ait une dynamique familiale et que l'enfant acquiert une colonne vertébrale, ses repères, pour l'aider par la suite à se défendre et avoir une vie saine. Vous savez que quand un enfant ne reçoit pas d'éducation sur l'équilibre alimentaire, on estime que 70% des enfants qui sont en surpoids à 10 ans le resteront à l'âge adulte. Donc cet aspect éducation, pour moi, il est fondamental.
Il y a un aspect éducation, Laurence Plumet, est-ce qu'il y a un aspect aussi sur la composition de ces produits? Est-ce qu'il est envisageable pour vous de forcer les marques à en changer?
Ah oui, alors ça, moi, j'ai toujours milité là-dessus. Je trouve qu'il y a une surenchère dans le gras et dans le sucre. Il faudrait que toutes les marques, d'un commun accord, s'harmonisent entre elles et devraient s'engager à ne pas dépasser un certain quota de sucre et de gras. Parce qu'on aime tous manger gras et sucré. Ça ne poussera pas au surpoids si on en fait une consommation raisonnable. Mais il faut que les industriels fassent un effort aussi. Et il faut qu'ils fassent des produits moins gras et moins sucrés. Ils ont tout intérêt à s'y engager et à communiquer. La pub pour les produits gras et sucrés, ça va, mais il faudrait aussi faire de la pub sur des produits beaucoup plus sains.
Merci docteur Laurence Plumet, médecin nutritionniste. Merci d'avoir été ce matin en direct avec nous, l'invité du journal de 7h d'Europe 1.
Europe 1.
Dans un tout petit instant, la suite du journal. Et malgré 4 jours de fouilles sur des propriétés de Michel Fourniret, toujours pas de traces du corps d'Estelle Mouzin. A tout de suite.
Europe 1, il est 7h12, la suite du journal. Théo Manval, Mathieu Béliard.
Et cela faisait 4 jours qu'ils fouillaient, pelleteuses, plongeurs, drones à l'appui. Mais les enquêteurs sont repartis hier soir des deux anciennes propriétés de Michel Fourniret sans avoir retrouvé le corps d'Estelle Mouzin.
La fillette de 9 ans disparue en 2003 à Guermantes et dont l'ogre des Ardennes a reconnu le meurtre en mars dernier. Les enquêteurs ont sondé les lieux où avaient été retrouvés les corps de deux autres victimes. Sans succès donc, mais la famille d'Estelle Mouzin ne perd pas espoir. Écoutez leur avocate, maître Corinne Herman.
Personne n'est résigné, hein, ni nous, ni la famille d'Estelle, ni les enquêteurs. Tous ceux qui ont mis beaucoup d'énergie à essayer de rechercher Estelle sont, je pense, prêts à continuer ses recherches et à reprendre ses recherches. Michel Fourniret avait plusieurs points de chute. Il va falloir explorer tous ces points de chute et donc ils sont motivés. Ils espèrent que tout sera fait également dans les autres endroits qui appartenaient à Michel Fourniret ou qu'il fréquentait. Et ils sont, je dirais, particulièrement combatifs. C'est une étape, effectivement. C'est difficile d'attendre encore, mais il y aura d'autres étapes et ils veulent absolument qu'on continue à chercher Estelle. Et ils sont motivés pour rechercher Estelle.
Maître Corinne Herman, l'avocate de la famille d'Estelle Mouzin, jointe pour Europe 1 par Pierre Herbulot. Attention, 8 départements du sud-ouest placés en vigilance orange pour risque d'orage par Météo France. À partir de ce soir, 18h et jusqu'à 1h du matin pour la Dordogne, le Lot-et-Garonne, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne, le Gers, Lot et le Tarn-et-Garonne. Orages localement violents et rafales pouvant atteindre jusqu'à 120 km/h.
Et puis c'est habituellement le moment où ils commencent à accueillir les vacanciers venus d'Allemagne ou des Pays-Bas. Les campings font grise mine. Malgré le déconfinement, la fermeture des frontières sape encore le début de la saison.
En Ardèche, sur les côtes ou en Provence, c'est le désœuvrement et l'amertume alors que le cadre idyllique est toujours là. Nathalie Chevance l'a constaté près d'Aix-en-Provence.
Au pied de la montagne Sainte-Victoire, les cigales chantent déjà, mais pas encore pour les touristes. Direction le camping Cézanne, les 40 emplacements sont quasi déserts. Les étrangers, les habitués ne sont pas là, du jamais vu pour Yvan Mardero, le gérant.
Les touristes n'arrivent pas. Très peu d'Allemands, très peu d'Hollandais. Mais les retraités, je ne les ai pas vus cette année. La peur, la psychose. J'ai pas beaucoup de personnes qui appellent, même ne serait-ce que pour des renseignements. D'habitude, à cette époque-là, on a de la demande pour juillet, pour août, vous voyez, aucune visibilité.
Des réservations de dernière minute pour de courts séjours, c'est le constat 20 km plus loin de Cécile Berger au camping Arc-en-Ciel qui n'est rouvert que depuis hier, faute de clients, le tout dans une atmosphère particulière.
C'est très inhabituel. Normalement, juillet-août, on a déjà fini les réservations, tout est complet et c'est pas la même ambiance. Les animations, ça c'est un point. Cette année, on va vraiment passer dessus parce que c'est assez contraignant et ça va être compliqué de pouvoir organiser ça avec des gestes barrières. Et j'avoue, j'ai eu quelques annulations où on m'a dit « Ah ben, comme vous ne faites pas votre grande fête annuelle, ben, on reporte à l'année prochaine. »
Un redémarrage laborieux pour ces petits campings indépendants qui misent déjà sur septembre. Aix-en-Provence, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et c'est vrai que ça fait envie ce bruit de cigale.
Oui, on pourrait le laisser toute la matinale d'ailleurs. Même quand on parle de sujets qui n'ont rien à voir, un petit bruit de cigale derrière, je vois Ambline qui dit oui. Pourquoi pas, à tester, un jour on verra. Merci Théo Manval, c'était le journal de 7h. À 7h30 tout à l'heure, nous serons avec Jérôme Lacroix. Très bon réveil à tous.
Votre rendez-vous santé avec le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed.
Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et tous.
Alors Jimmy, on commence à le savoir, les patients qui ont eu des formes graves de Covid peuvent avoir des séquelles. Mais est-ce que ça pourrait être le cas aussi de gens qui ont eu peu de symptômes ?
Eh oui, c'est aussi une alerte du système de santé britannique qui dit que 30% des patients ayant eu le Covid pourraient garder des séquelles. Et si on estime que 5% de la population française a eu le Covid, ça ferait plus d'un million de personnes avec ces séquelles. Alors, pour l'instant, on commence à les découvrir. Certains ont gardé l'anosmie, la perte du goût. On ne sait pas combien de temps ils vont l'avoir. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la fibrose pulmonaire. Pour faire très simple, c'est l'équivalent de la cirrhose du foie. Vous avez un tissu pulmonaire qui est moins souple, c'est lié à la formation de petits caillots qui vont bloquer la circulation sanguine et puis ça peut évoluer vers une insuffisance respiratoire sur le long terme. Et puis, on a des complications neurologiques. Certains patients gardent une fatigue résiduelle avec une baisse des performances intellectuelles associée à des troubles de la mémoire et de la concentration. Le problème, c'est que c'est des choses qu'on ne peut pas trop quantifier. C'est très subjectif, mais beaucoup de malades s'en plaignent. Alors, évidemment que chez les patients qui ont été en réanimation, c'est beaucoup plus sévère, mais on se rend compte que chez certains plus jeunes en Angleterre, qui ont 40-50 ans, ils ont aussi ces séquelles et on ne sait pas combien de temps ça va durer et puis surtout si ça va avoir des conséquences sur le très long terme.
Du coup, que doit-on faire, Jimmy ? On doit reconsulter systématiquement ? Et puis, si oui, qui est-ce qu'on doit aller voir, pour le coup ?
Oui, vous avez raison, Mathieu. Consultez systématiquement. Si vous pensez avoir eu le Covid, allez faire une sérologie. Si votre sérologie elle est positive, allez voir votre médecin. Au moindre doute, vous aurez un scanner faible dose et puis un suivi. Et pour les malades qui ont beaucoup de symptômes, il existe des consultations pluridisciplinaires à l'hôpital. Bref, ne laissez pas traîner ces symptômes, même si ceux-ci ont pu vous paraître mineurs.
Merci beaucoup Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 qu'on retrouve tous les jours juste après le journal de 7h. Et puis bien sûr, à partir de 15h, c'est sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez. Merci Jimmy.
À 7h17 sur Europe 1, on retrouve Anissé Mbida pour l'innovation du jour.
Bonjour Anissé.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et alors ce matin, vous nous parlez d'une astuce pour convertir l'ensemble des taxis à l'électrique. Ajouter un système de recharge sans fil dans chaque station.
Oui, c'est ce que va faire la ville d'Oslo en Norvège. Toutes les stations de taxi vont être équipées d'une plaque à induction, si bien que dès qu'un taxi électrique va s'arrêter dessus, il va se recharger automatiquement, sans fil, pas besoin de descendre ni de brancher quoi que ce soit. Et ça, pour les compagnies de taxi, ça change tout. Est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui, quasiment aucune compagnie n'utilise de taxi électrique ?
À cause de l'autonomie, du temps de charge ?
Exactement, comme beaucoup de gens finalement. Hein. Mais quand on fait en moyenne 250 km par jour, qu'on a la clim allumée et qu'il faut en plus alimenter la lumière sur le toit, son système de réservation, le lecteur de carte bancaire, son téléphone portable, et on a vite mangé le peu d'autonomie qui reste sur une voiture électrique. Et quand on a un taxi, on ne veut surtout pas avoir à s'arrêter pendant des heures, donc perdre des clients parce qu'on est obligé de recharger. Et bien avec les plaques à induction, ils pourront remplir leur jauge à chaque fois qu'ils attendent à la station.
Ça veut dire qu'il faut avoir un taxi compatible avec ce type de recharge, bien sûr.
Oui. Mais on peut aussi adapter les voitures existantes en leur ajoutant un module à induction directement sous la voiture. C'est d'ailleurs ce qui va être fait à Oslo dans le cadre d'un grand projet qui est baptisé Electricity. Il faut savoir qu'à partir de 2025, plus aucune voiture polluante ne pourra être vendue en Norvège et que pour les taxis, ça commencera dès 2024. Donc pour que tout le monde bascule, il fallait d'abord préparer l'infrastructure. En France, pour mémoire, la fin des voitures thermiques, ça ne sera pas avant 2040, mais on sait déjà où aller chercher les bonnes idées.
Mais cela dit, au moins la bonne idée peut-être de prévoir l'infrastructure avant la loi.
Avant la loi.
Bon, Anissé Mbida, l'innovation tous les matins après le journal de 7h. Merci Anissé. You'll never walk alone. On va parler de Liverpool, sacré champion d'Angleterre après 30 ans sans titre. 30 ans sans titre de champion pour Liverpool. On ne peut pas ne pas aimer Liverpool, va nous dire Virginie Fulpin dans son édito sport dans quelques toutes petites secondes.
Il est 7h22, Mathieu Béliard est sur Europe 1.
Axel de Tarlé aussi avec nous, le monde bouge. Axel, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Baisse historique du nombre de chômeurs le mois dernier, mais attention, il s'agit d'une baisse en trompe-l'œil, dites-vous. Ces chiffres traduisent avant tout une précarisation du monde du travail.
Eh bien oui, hier, excellente nouvelle. Hein, Pôle emploi a comptabilisé 150 000 chômeurs de moins le mois dernier, donc un chiffre record. Sauf que si on regarde, ces personnes n'ont pas retrouvé un vrai emploi. Elles ont simplement réussi à décrocher fin mai un petit boulot, quelques heures de CDD. D'ailleurs, elles sont toujours inscrites à Pôle emploi, mais dans la catégorie « personne ayant exercé une activité réduite ». Donc, on le voit bien, malheureusement, on est face à une économie fragile, faite de contrats courts et de précarité. Et c'est malheureusement d'ailleurs l'une des caractéristiques de ce virus qui est en train de creuser les inégalités au sein de la société. L'INSEE le disait la semaine dernière, hein, ceux qui, pendant le confinement, ont subi des baisses de salaire se trouvent au bas de l'échelle, alors que les plus favorisés, eux, ont pu continuer à travailler et n'ont subi aucune baisse de salaire. Au contraire, ils ont pu épargner.
Car le Covid, dites-vous, va aussi accentuer les inégalités de patrimoine. Pourquoi ?
Alors, écoutez, Il est 200 à 300 milliards d'euros que le gouvernement a emprunté à la Banque Centrale Européenne pour soutenir l'économie. Vous savez, ces centaines de milliards, c'est ce qu'on appelle des liquidités. Et on sait très bien que cet excès d'argent en circulation, c'est très bien où il va finir. Il va finir par se loger dans les actifs, le patrimoine, la bourse, l'immobilier. Donc vous voyez, les milliards de la Banque Centrale Européenne va encore faire grossir les patrimoines. Donc oui, si on se résume avec ce Covid, on a des pertes de revenus au bas de l'échelle, des gains en patrimoine en haut de l'échelle. Donc oui, on polarise toujours un peu plus la société, les générations également. Imaginez le jeune qui débarque aujourd'hui sur le marché du travail, pas de boulot, mais des loyers toujours plus élevés. D'où d'ailleurs cette volonté du gouvernement de mettre le paquet sur l'emploi des jeunes.
Merci Axel de Tarlet. Le monde bouge, je vais vous le raconter tous les matins sur Europe 1.
7h24 sur Europe 1, l'édito sport, Virginie Culpin.
Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
Liverpool est champion d'Angleterre pour la première fois depuis 30 ans. Les fans se sont rassemblés autour du stade hier soir, malgré l'interdiction. Et pour vous Virginie, on ne peut pas ne pas aimer Liverpool.
Celui qui n'aime pas Liverpool n'a pas de cœur. Cette phrase de Jürgen Klopp, l'entraîneur, résume assez bien la situation. Vous trouverez peu de passionnés de foot qui détestent Liverpool, à part les supporters de Manchester United, évidemment. Mais c'est aussi la rivalité ancestrale de ces deux clubs du nord de l'Angleterre qui donne ses lettres de noblesse au foot anglais. La force de Liverpool, c'est son pouvoir d'évocation qui va largement au-delà des fans de foot. Vous prononcez Liverpool, il y a deux choses qui vous viennent à l'esprit. La musique, bien sûr. Ouais. Évidemment, Liverpool, c'est les Beatles. Et Liverpool, c'est Anfield Road, un stade qui ne peut laisser personne insensible quand la foule porte ses joueurs. Voilà, le fameux « You'll never walk alone ». On est nombreux à avoir écrasé une petite larme hein, en entendant cet hymne, même sans attachement particulier à cette équipe. Parce que Liverpool est tellement ancré dans notre inconscient qu'on a une mémoire sélective. Aujourd'hui, de l'ambiance en Anfield, il n'y en a plus vraiment. Hein. La hausse du prix des places a vidé les tribunes de son public populaire et d'une partie de son âme. Mais le mythe est resté. Et puis cette équipe, elle s'est relevée après les drames du Hazel et de Hillsborough dans les années 80. Ce hooliganisme meurtrier aurait anéanti la plupart des clubs. Hein. Liverpool a réussi à digérer, à faire son deuil en acceptant sa part d'ombre pour se reconstruire. Et c'est aussi pour cette complexité qu'on aime ce club pour le meilleur et pour le pire.
Cette équipe est aussi une de celles qui nous apporte le plus de bonheur sur le terrain pour vous.
C'est à l'image de son entraîneur, Jürgen Klopp aime le foot et il aime ses joueurs. Et son sourire communicatif, j'ai l'impression de le retrouver dans la façon de jouer de son équipe. Liverpool a gagné la Ligue des Champions il y a un an, aujourd'hui le championnat. Et pourtant, les joueurs ont l'air de s'amuser autant que dans la cour de récré. Nous aussi, du coup. Sadio Mané et Mohamed Salah n'ont pas gagné le Ballon d'Or, et tant mieux. Moi, je préfère les voir gagner ce championnat qui fuyait Liverpool depuis 30 ans. Liverpool, c'est une équipe, un groupe qui nous donne envie de jouer collectif. Alors, comment pourrait-on ne pas aimer une équipe avec ce genre de message ?
Et voilà pourquoi on vous parle de ce titre ce matin. Voilà pourquoi on vous parle de ce titre de Liverpool, champion d'Angleterre. 30 ans sans titre de champion. Il y a eu une Ligue des Champions au moins, il y a eu d'autres titres, mais 30 ans sans titre de champion pour Liverpool.
Deux Ligues des Champions même.
Merci beaucoup. On se demandait tout à l'heure justement si c'était une ou deux. Virginie Fulpin est là. C'était deux Ligues des Champions pour Liverpool. 7h26.
Dans un instant, un journal à 7h30. La météo avec Laurent Cabral. À tout de suite.
7h29, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et c'est une journée très agitée avec des vigilances qui ont été émises par Météo France. La Creuse, Haute-Vienne, Corrèze, Dordogne, Lot, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne et Gers sont en vigilance orange, surtout cet après-midi car les orages seront violents. Il faut bien dire que les orages seront très présents aujourd'hui sur l'ensemble des régions de France, excepté sur les côtes, hein, qu'elles soient de la Manche, Atlantique ou Méditerranée, où ce sera un petit peu plus calme. Pour ceux qui préparent leur congé de fin de semaine, demain samedi, ce sera encore bien dégradé, bien instable, avec des pluies passagères, notamment sur la Manche, avec un temps gris et pluvieux, de Perros-Guirec à Deauville jusqu'au Touquet. Des orages sur la Lorraine, l'Alsace, l'Auvergne, le Midi-Pyrénées demain. Bref, c'est pas terrible. Hein. Mais dimanche sera beaucoup plus clément. Hein. Vous avez la chance, dimanche, des nuages, certes, mais pratiquement sans pluie. Et vous allez donc pouvoir profiter de votre dimanche beaucoup plus largement. D'une manière générale, les températures baissent de 3 à 4 degrés aujourd'hui. Et d'une manière générale, j'en terminerai, nous aurons la semaine prochaine presque le même temps que cette semaine. Montée des températures au début de la semaine, orage au milieu de la semaine, et puis un temps plus calme en fin de semaine.
Merci Laurent Cabrol, bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
On a fait l'ouverture avec tous les passagers, on a senti cette excitation, et je le raconterai à mes petits-enfants, ouais. Et on était là, les premiers, à 6h.
Ce passager est actuellement en vol vers le Portugal dans un avion parti d'Orly il y a à peine une heure. C'était le tout premier. L'activité du deuxième aéroport de France reprend après 3 mois de fermeture. Nous sommes sur place. L'Élysée lance sa propre mission d'évaluation sur la gestion de la crise sanitaire. Sur quoi va-t-elle travailler alors qu'il existe déjà celle de l'Assemblée nationale? Et puis, des vaches connectées GPS autour du co-dispositif pas banal en Haute-Saône qui doit offrir un gage de bonne qualité pour des fromages. On vous explique tout à la fin du journal.
Les enjeux, les rapports de force du second tour des municipales avec le directeur du département opinion de l'IFOP, Jérôme Fourquet, à 7h40. 7h50 sur Europe 1, Périscope, le rendez-vous culture de la matinale. Jean-Philippe Ballas nous fera découvrir le dernier album de Benjamin Biolay. Et puis enfin, la justice française perd-elle la tête? La question de Nicolas Bétou. C'est juste avant 8h. Il est 7h31. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le réveil d'Orly, c'est en ce moment près de 3 mois que le deuxième aéroport français est à l'arrêt quasi total en raison de la pandémie. C'est reparti ce matin, symbole de la reprise pour un secteur très touché. De premiers vols commerciaux avec des passagers. 2 avions ont déjà décollé vers Porto et Calvi en Corse.
Et nous sommes sur place avec Carole Ferry. Carole, racontez-nous, le premier vol vers le Portugal devait partir à 6h. Finalement, 25 minutes de retard parce que justement, on a fêté l'événement.
Ah ben clairement, hein, vous avez d'abord eu les applaudissements à l'embarquement pour accueillir les 119 passagers. Et puis juste avant le décollage, vous avez eu le water salute. Voilà, ce sont 24 000 litres d'eau qui sont déversés par 2 camions de pompiers. Une superbe arche d'eau se forme alors au-dessus de l'avion. C'est une tradition pour tous les grands événements. Et c'est vraiment ce que Paul, parti en amoureux, a eu l'impression de vivre ce matin.
On est arrivé ce matin à 4h à l'ouverture. On a fait l'ouverture avec... Avec tous les passagers, on a senti cette excitation et voilà, on est au top. Je le raconterai à mes petits-enfants, ouais. Et on était là, les premiers, à 6h. Ouais, non, c'est cool.
Pour Odette, 73 ans, il y a un peu plus d'appréhension, mais pas du tout à cause des gestes barrières.
Ça me fait un peu peur. Voilà, que l'avion ne marche pas depuis 3 mois.
Pas complètement rassurée.
Voilà.
Bon bah maintenant, Odette est en vol. À 7h30, vous avez vraiment l'impression que la vie reprend normalement dans l'aéroport, avec toutefois des destinations privilégiées, l'outre-mer et puis la Corse. Prochain vol pour Bastia et Ajaccio à 9h50.
Carole Ferry en direct de l'aéroport d'Orly. Une reprise en douceur avec strictes mesures sanitaires. 70 vols aujourd'hui, 10% du trafic habituel. Reprise moins festive pour les 500 000 riverains de l'aéroport. Passage d'un avion toutes les 3 minutes en pleine activité. Ils s'étaient habitués au chant des oiseaux.
463 000 postes pourraient être détruits dans l'industrie d'ici 2 ans. Cela confirme les craintes exprimées hier sur Europe 1 par le président de l'Union le délégué général de l'Union des industries et métiers de la métallurgie.
Précision sur cette sombre perspective issue d'un cabinet d'audit dès le début du journal de 8h. À 8h15, Olivier Véran sur Europe 1, le ministre de la Santé au micro de Sonia Mabrouk. Il sera question notamment de l'enveloppe de 6 milliards d'euros pour les soignants. Quelle répartition entre public et privé?
Mais aussi de cette campagne de tests à grande échelle lancée dans 30 communes d'Île-de-France.
Sur la gestion de la crise sanitaire par les autorités, l'Élysée lance sa propre enquête alors que l'Assemblée nationale a déjà mis sur pied sa propre commission qui a notamment auditionné mercredi Didier Raoult. Alors sur quoi cette enquête élyséenne va-t-elle porter? On voit cela avec Jean-Rémy Baudot.
Quand l'Élysée a annoncé son intention de mener sa propre enquête sur le Covid, la fronde a été générale, particulièrement au sein de l'Assemblée où les parlementaires mènent aussi une enquête. Ils ont notamment reçu le professeur Raoult mercredi. Dans l'entourage du président, on parle d'une initiative complémentaire. Ça n'est pas une contre-expertise de l'enquête parlementaire, jure un conseiller. Pourtant, l'Élysée veut un rapport moins politique, plus technique, avec une mise en perspective plus internationale. Il nous faut un retour d'expérience pour nous préparer à de nouvelles pandémies, précise un proche du président. Voilà pourquoi cet audit sera réalisé par 5 experts, infectiologues, économistes, médecins ou anciens présidents de la Cour des comptes. Ils pourront auditionner qui ils le souhaitent en France ou à l'étranger. Un premier rapport est attendu par l'Élysée en octobre prochain avec une idée en tête résumée par un collaborateur de l'Élysée. S'il devait y avoir un rebond de l'épidémie, cette mission serait en capacité d'observer en temps réel et de corriger.
Jean-Rémy Baudot.
Europe 1, il est 7h35.
4 jours de vaines recherches. Les fouilles ont pris fin hier soir dans les Ardennes et le corps d'Estelle Mouzin, disparu en 2003, n'a pas été retrouvé dans aucune des 2 anciennes propriétés du tueur en série Michel Fourniret.
On vous parle maintenant de cette alerte lancée par une revue, une grande revue médicale d'oncologie sur les récidives du cancer du sein.
Un trop grand nombre de femmes stoppent prématurément la prise de tamoxifène, ce médicament qui évite les rechutes, Eve Roger.
Une femme sur 6 arrête le traitement contre la récidive dès la première année. Et au bout de 5 ans, c'est la moitié qui abandonne. Et pourtant, en faisant ça, elles augmentent leur risque de rechute de 5 à 11%. Mais si elles prennent ce risque, c'est parce que les effets secondaires sont trop difficiles à supporter, raconte Marina, 52 ans, qui a stoppé le tamoxifène au bout de 8 mois.
J'étais très fatiguée d'avoir mal 24 heures sur 24 parce que c'était nuit et jour. Je m'étais dit, s'il ne me reste que 2-3 ans sans avoir mal, je préfère que vivre 10 ans en souffrant.
Par chance, Marina est suivie à l'Institut Gustave Roussy à Paris qui mène des recherches pour justement aider ces femmes à mieux supporter le traitement. Ça passe d'abord par l'activité physique. Petit à petit, Marina reprend donc le sport et dans la foulée, le tamoxifène.
Bon, moi, je marche beaucoup parce qu'on a la chance d'avoir un chien. Je fais du tennis de table, je vais à la piscine et je fais du vélo d'appartement. Si je passe une ou deux journées sans bouger, je ne me sens pas bien du tout, quoi.
Et pour soulager les femmes, les chercheurs aussi essaient de mieux ajuster le dosage du médicament par rapport aux besoins. L'acupuncture pourrait également être une bonne piste.
En Ile-de-France, trafic perturbé au moins jusqu'à dimanche soir sur le RER B après le déraillement mercredi d'un train qui ne transportait pas de voyageurs.
Je vous parle maintenant, Mathieu, de vaches connectées, en fait avec un GPS autour du cou. Alors, à quoi ça peut bien servir? Ça sert à savoir si pendant une année, elles ont passé suffisamment de temps à paître dans les prés pour assurer que le fromage issu de leur lait sera de bonne qualité.
C'est le concept singulier développé par une fromagerie de Haute-Saône où s'est rendu Arthur Mbaché.
On n'a jamais mis de cloche aux vaches. Je pensais au départ que ça allait un peu les gêner. Pas du tout. Hein.
Impassible Margot, fidèle à elle-même, la Montbéliarde avec son collier GPS tout neuf. C'est une des deux meneuses du troupeau, choisie donc par Émeric Rouge pour porter ce nouvel attirail connecté au téléphone de l'éleveur.
Oui, alors on a une application qui s'appelle Chronopâture. Et ensuite, on arrive directement sur la carte satellite. On sait si la vache est dans la parcelle ou si elle est à l'intérieur du bâtiment.
Le bâtiment qu'on voit en bleu.
Donc le bâtiment est bleu sur l'écran et les pâtures sont vertes.
Le but du jeu, c'est d'être le plus possible dans le vert.
Pour respecter notre fameux cahier des charges.
Cahier des charges rédigé par la fromagerie voisine.
Là, elle était à 13h22, elle était là. 13h48, elle était là, donc elle a traversé tout le champ. Là.
La fromagerie Mireille ou Rémi Vasselet veille parce que ce suivi à la trace sert d'argument marketing.
C'est de pouvoir justifier donc, le nombre de jours de pâturage. 180 jours, une journée, c'est au moins 6 heures de pâturage. Donc là, elles sont sorties le matin, l'après-midi, le soir. C'est un enregistrement complet du nombre d'heures qu'elle a passé dehors.
Au final, un fromage crémeux avec écrit en gros sur le paquet « filière responsable ». Charsène, Arthur Mbaché, Europe 1.
Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas une vache sur GPS? Faudra faire la même chose pour les fromages de brebis, les fromages de chèvre aussi.
Si vous préférez.
C'est ça, je vais appeler Arthur Mbaché, on va s'occuper de ça. Merci beaucoup Jérôme Lacroix, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1, 7h38.
Europe 1. La matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Deuxième vague, reconfinement, voilà qui fait peur dans les débats ces derniers jours, ces mots que vous entendez. Le dépistage sera systématique dans certaines zones à risque, dit le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'invité de Sonia Mabrouk, invité sur Europe 1 à 8h15 tout à l'heure. Tout de suite, projection sur dimanche, le second tour des municipales, les enjeux, les rapports de force, les réponses et l'éclairage de Jérôme Fourquet de l'IFOP. C'est dans une minute, à tout de suite.
À 7h40, les acteurs de l'actualité sont en direct sur Europe 1. Votre invité Mathieu Béliard, Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise de l'Institut de Sondage IFOP.
Bonjour Jérôme Fourquet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Dans deux jours, on vote second tour des municipales dans près de 5000 communes, 4800 précisément, 16 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes. Je dis bien appelés parce que la première des tendances, on pourrait démarrer par là, Jérôme Fourquet, c'est l'abstention très élevée qui est en vue.
Alors effectivement, le premier tour, on s'en souvient, avait été marqué par une abstention tout à fait spectaculaire, en hausse de près de 20 points par rapport à la dernière élection municipale de 2014. Le contexte très particulier de l'épidémie qui s'était déployée sur le territoire avait bien évidemment expliqué une bonne partie de cette poussée très forte de l'abstention. On était à quelques jours du confinement, mais la peur était déjà très palpable dans la population. Et cette peur était encore en partie présente aujourd'hui, ce qui explique qu'une partie des électeurs qui s'étaient détournés des urnes il y a 3 mois vont réitérer ce comportement. Et les chiffres sur lesquels on travaille, nous, à l'IFOP actuellement, nous indiquent qu'on aurait peut-être même, dans les communes concernées, comme vous l'avez rappelé, tout le monde n'est pas appelé à voter
bien
dimanche.
Bien sûr, il y a beaucoup de maires qui ont été élus au premier tour.
Dans les communes qui sont appelées à revoter, on aurait une abstention qui potentiellement pourrait même grappiller 3-4 points supplémentaires par rapport au niveau historique qu'on avait déjà observé le 15 mars.
Il y a la peur du Covid, mais il y a aussi une forme peut-être de désintérêt.
Alors, il y a un désintérêt aussi manifeste qui s'explique, on le comprend, par ce calendrier totalement hors norme, plus de 3 mois entre le premier et le deuxième tour. Une campagne qui a été complètement occultée, sauf dans quelques communes à très fort enjeu, mais et les Français n'ont pas la tête, entre guillemets, aux élections. On pense aux vacances, on pense à la sortie de ce confinement, au risque d'une éventuelle deuxième vague, mais les municipales ont été totalement escamotées.
Il sera difficile pour vous de tirer des enseignements du scrutin, pour vous ou pour les différents partis politiques ?
Alors, effectivement, avec une très forte abstention, il faudra relativiser les pourcentages qui seront communiqués, qui seront analysés. Néanmoins, on peut penser que cette élection, elle va être intéressante dans la mesure où elle va s'inscrire dans la poursuite d'une tendance qui s'est, d'un processus qui s'est enclenché avec la présidentielle de 2017.
Le dégagisme, alors, la recomposition
le dégagisme
politique.
Et surtout une très profonde recomposition politique. Et là, en fait, on est dans la suite du film, parce que quand on chamboule tout, ça met du temps à se restabiliser. Manifestement, notre système politique n'est pas restabilisé. On va avoir deux grandes tendances, en fait. On a d'une part, au plan national, deux grandes forces politiques, le Rassemblement National et La République En Marche. On le voit dans les intentions de vote présidentielles, qui continuent d'occuper le terrain. Et donc, il faudra compter avec elles. Mais ces grandes forces sont très en difficulté, voire absentes, au niveau local.
Oui, parce que là, on ne parle que de la percée des Verts. Alors, il y a eu les Verts aux européennes, les Verts au premier tour, c'est ce qu'on va regarder dimanche soir.
Alors, c'est un des enseignements, effectivement. Donc là aussi, c'est la poursuite d'un processus. Il y a de nouveaux phénomènes, de nouveaux acteurs qui émergent. Et puis, parallèlement à ces deux grands acteurs, République En Marche et Rassemblement National, on a des vieilles formations politiques, les Républicains et le Parti Socialiste, qui localement vont faire de la résistance. Ils vont pouvoir s'appuyer sur un maillage important d'élus dimanche soir. Mais tout cela ne vaut pas incarnation ou ne permet pas une projection au niveau national. Donc on a deux niveaux qui ne se superposent pas. Et on voit bien que c'est un peu comme une tectonique des plaques. On a un nouveau monde politique qui a la peine à s'implanter localement et un ancien monde politique qui fait de la résistance au niveau local, mais qui est très peu présent et audible au niveau national. On rappelle en plus que les maires très nombreux qui vont être réélus du côté de LR ou du Parti Socialiste, le seront sur leur bilan, leur nom propre, et non pas sur leur étiquette
qu'ils ont souvent gommé les étiquettes
bien gommées et bien camouflées.
Oui, mais par contre, pour La République En Marche, on est quand même très loin des objectifs annoncés. Si on se reprojette, vous parliez de 2017, on voyait La République En Marche s'imposer dans des grands centres urbains. On pensait à Paris, évidemment, où le score d'Emmanuel Macron était énorme. Agnès Buzyn, la campagne a été compliquée. Benjamin Griveaux, Agnès Buzyn, le Covid. Mais je veux dire, c'est pour La République En Marche, ce test des municipales, il est déjà raté.
Alors, il est raté. Alors, vous avez parlé des résultats de la présidentielle, mais même plus près de nous, les européennes avaient montré des potentialités tout à fait intéressantes pour La République En Marche. Vous avez raison, notamment dans les principales métropoles françaises, ce qui avait fait naître de nombreux projets ou espoirs du côté de LREM. Et puis tous ces espoirs ont été déçus avec des scores qui sont très très faibles au premier tour et puis des perspectives de victoire au deuxième qui sont quasiment inexistantes dans la plupart des villes. Donc la greffe au niveau local, n'a pas prise. LREM est une force autour de la figure d'Emmanuel Macron de première grandeur au niveau national, mais localement, on est toujours dans cette grande difficulté.
Jérôme Fourquet, vous publiez avec Marie Gariazo, En immersion, enquête sur une société confinée aux éditions du Seuil. L'an dernier, grand succès de l'archipel français chez le même éditeur où vous parliez de l'archipélisation de la société, ce qui nous sépare, ce qui nous isole, des divisions dans la société française, ces îlots qui ne s'intéressent plus les uns aux autres. Je voulais vous demander, entre ces deux livres, le confinement, est-ce qu'il a exacerbé cette archipélisation ou au contraire, est-ce qu'il a changé la donne ?
Alors, de notre point de vue, il n'a pas vraiment changé la donne, même si dans la première phase du confinement, on a vu un certain réflexe de solidarité. On a en tête les images des Français qui applaudissent les personnels soignants au balcon tous les soirs. Donc il y a dans un premier temps un mouvement de cohésion, mais ce confinement et cette épidémie, de notre point de vue, a plutôt fonctionné comme un espèce de révélateur des fractures françaises. Ce confinement était une épreuve collective, mais tout le monde ne l'a pas vécu de la même manière. Et on a vu dans différents domaines réapparaître ou remonter à la surface un certain nombre de fractures. Je pense notamment aux décrocheurs scolaires en matière éducative. On a beaucoup parlé du télétravail dans le monde de l'entreprise, mais en fait, on avait trois Frances. Celle qui a télétravaillé, celle qui a continué, la peur au ventre, d'aller travailler sur son site de travail habituel, et puis une masse importante aussi de Français qui ont été mis au chômage partiel ou au chômage tout court. On pourrait décliner ça à l'envi, idem sur la façon dont certains ont vécu le confinement loin des grands centres urbains, ils sont exilés, d'autres qui sont restés un peu
piégés. On retrouve ces îlots, justement.
On retrouve tout ça, ce qui preuve de cette hypothèse ou illustration de cette thèse, on voit que l'actualité est repartie sur les chapeaux de roue juste à la sortie du confinement, avec des sujets d'affrontement, de division qu'on avait connus avant le confinement. Oui. C'est comme si on avait appuyé sur pause
et qu'on
reprend le film là où on l'avait quitté, avec un certain nombre de choses qui ont changé quand même, notamment une crise économique et sociale qui s'est imposée.
Et qui nous donnera l'occasion de vous réinviter, effectivement, ouais. Jérôme Fourquet, avec Marie Gariazo, citons-la, en immersion, enquête sur une société confinée aux éditions du Seuil. Merci beaucoup, Jérôme
Merci
Fourquet.
Merci à vous.
Et le scrutin des municipales, bien sûr. Dans deux jours, on continue d'en parler sur Europe 1, 7h48.
Europe 1. A tout de suite avec Benjamin Biolay, invité de Jean-Philippe Ballas dans Périscope sur Europe 1. Il est 7h50, vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1.
Et c'est l'heure de Périscope, le rendez-vous culture de la matinale, 7h50 comme tous les jours sur Europe 1 avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et c'est l'événement ce matin, la sortie du nouvel album de Benjamin Biolay. Il s'intitule Grand Prix, comme la Formule 1.
Ouais, il adore ça, et quand il était gamin, il était aussi Prost que Senna. Au conservatoire, il a joué du violon, puis du tuba. Il fait de la chanson, du cinéma, accessoirement le meilleur album de l'année, un peu plus de 3 minutes avec Benjamin Biolay.
Je crèverai pas tout seul, allongé dans la pénombre bleutée.
Bonjour Benjamin Biolay.
Bonjour.
Ce moment où on tient entre les mains son nouvel album.
C'est un moment assez merveilleux. D'aider cellophaner le disque, de l'écouter, de lire le livret en même temps. Comme moi je fais quand j'achète un disque, en fait c'est un moment que je trouve un peu idyllique, un peu assez unique, difficile à décrire, mais un petit moment de félicité. Enfin, j'espère.
J'ai parcouru le monde, j'ai traversé la France de fond en comble, chaque station essence. J'ai traversé la vie comme une ambulance, jamais trop en retard, jamais trop en avance.
Il y a beaucoup de gens qui vous connaissent qui disent qu'il est apaisé aujourd'hui, Benjamin Biolay.
Oui, je sais pas, je suis peut-être moins affecté, je suis plus naturel, j'ai moins le trac, je suis moins timide. Oui, dans ma tête, c'est un chaos moindre. Oui, le chaos, c'est apaisé, quoi, on va dire. Mais il est toujours là.
Dis-moi si tu te souviens encore un peu de ma peau sur ton corps.
Sinon, je suis un musicien plutôt joyeux et qui a tendance à privilégier les premiers jets. Mais c'est comme auteur que je reviens tout le temps sur le truc et que je deviens fou, en fait. Je commence les mélodies d'abord. Moi, je fais mes chansons dans un espèce de faux anglais qui ressemble à rien depuis toujours. Et après, je dois écrire des textes, mais c'est toujours un casse-tête épouvantable quand même. C'est la langue française, je l'aime beaucoup, alors j'ai toujours envie de la valoriser un peu, mais il faut qu'elle sonne quand même, donc c'est... quelle épreuve.
De moins en moins, je pense, car je n'en sais plus rien.
Le jour, je disais dans le journal, on disait que la chanson française avait peut-être trouvé son nouveau patron et que c'était Benjamin Biolay.
Moi, je ne l'avais pas lu, mais ça me fait très plaisir que quelqu'un pense ça. Moi, je ne pense pas ça. Je pense que par rapport aux anciens, là, je ne me sens pas du tout...
On parle toujours de Gainsbourg, on vous parle toujours de lui.
Oui, mais moi, je pense toujours à lui. Je pense toujours à Aznavour, je pense toujours à plein de chanteurs que je considère comme les patrons. Du coup, le terme à coller à moi me paraît complètement impensable.
Je suis le visiteur du soir, je suis les vestiges du soleil noir.
Ah, j'ai une question visuelle, je vois que vos cheveux sont teints, alors j'ai des copines, ça les interpelle beaucoup.
C'est parce que je suis acteur, c'est pour un film, c'est pas parce que je suis dans ma période Claude François, c'est vraiment pour un rôle.
Alors je vous rassure, globalement, elles trouvent que ça vous va bien.
Oui, bah, tant mieux, mais ça va pas durer.
Ça vous plaît toujours de continuer à être acteur en plus ?
Ah mais j'adore, c'est vraiment... Et en plus souvent j'entends les acteurs qui se déprécient et ils se rendent pas compte à quel point leur art est d'une difficulté. Jouer la comédie c'est très très dur, ça vient d'un peu de nulle part. Ça me fascine, non, j'aime vraiment vraiment ça.
Souviens-toi l'été dernier, tu as disparu. Ce n'était qu'un CDD, tu n'avais pas bien vu.
Dernière question, Benjamin Biolay. Dans cet album, il y a beaucoup de voix de femmes. Et je me demandais, comment vous faites pour rester amis avec la plupart de vos ex ?
Non, pas toutes. Non, mais c'est... les moex, etc., les histoires d'amour sont des choses qui durent malheureusement parfois pas longtemps, mais quand on est ami avec quelqu'un, l'amitié, ou la, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, en fait, quoi. Non, c'est ma vie qui est comme ça. Quand j'aime, il est rare que je désaime.
Merci beaucoup, Benjamin Biolay.
Merci infiniment. Merci.
Grand Prix, c'est le nouvel album de Benjamin Biolay. Il sort aujourd'hui. Merci Jean-Philippe Ballas. Je sais que vous l'avez beaucoup aimé cet album. Merci Jean-Philippe, c'était Periscope.
7h54, l'opinion de Nicolas Bétou sur Europe 1.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Après l'affaire Éliane Houlette et la révélation de pression sur le parquet national financier lors du quinquennat précédent, voici l'affaire Bismuth Sarkozy. On a l'impression que la chronique judiciaire est en train de devenir une rubrique de faits divers.
Mais qu'arrive-t-il à la justice française? Est-ce qu'elle a perdu la tête? Est-ce qu'elle a décidé sa propre condamnation à une dégradation en place publique? En tout cas, chaque jour apporte sa nouvelle affaire et chaque jour un peu plus de déshonneur.
Alors, la dernière affaire en date, Nicolas, c'est la révélation d'une enquête secrète sur des avocats.
C'est le magazine Le Point qui l'affirme. Le parquet national financier a épluché en grand secret les listings téléphoniques de plusieurs avocats célèbres à la recherche d'une taupe qui aurait renseigné Nicolas Sarkozy sur le fait justement qu'il était personnellement mis sur écoute. Bon, c'est une affaire complexe, mais elle a révélé que la justice pouvait elle-même flirter avec l'illégalité en plaçant des écoutes au long cours sur les conversations entre un ténor du barreau et son client. Ce n'est pas brillant, mais ce n'est rien à côté de l'affaire Houlette.
Du nom de l'ancienne patronne du parquet national financier qui avait lancé l'enquête sur François Fillon.
Oui, et qui avait, à la vitesse de l'éclair, transmis le dossier à un juge d'instruction, lequel s'était empressé de mettre en examen le candidat de la droite. Bon, on sait maintenant que Mme Houlette a subi des pressions de sa supérieure hiérarchique, des pressions très probablement politiques, puisque, je le rappelle, nous étions alors en pleine campagne électorale pour l'élection présidentielle. C'est évidemment très grave. Ça fait peser une suspicion absolue sur l'indépendance de la justice et sur le fait qu'elle a pu lourdement peser sur le cours de la politique française. Et c'est tellement gros qu'Emmanuel Macron a saisi le Conseil supérieur de la magistrature afin de faire la lumière sur cet épisode peu glorieux. Le chef de l'État veut, dit-il, lever le doute sur l'indépendance et l'impartialité de la justice. Et à vrai dire, ça s'annonce assez mal. Parce que dans le même temps, deux juges d'instruction ont relancé leurs propres investigations sur son plus proche collaborateur, Alexis Kohler.
C'est une affaire ancienne, hein, de soupçons, oui, de conflits d'intérêts, on en a parlé. La première enquête avait été classée sans suite.
Oui, mais une note d'Emmanuel Macron prenant la défense de son collaborateur vient d'être révélée par Mediapart. Et il a suffi là aussi de quelques heures pour relancer la machine judiciaire sur un soupçon d'ingérence. Et c'est assez difficile de croire qu'il n'y aurait aucune dimension politique dans ce calendrier express. Voilà, on enquête à marche forcée sur les politiques, on enquête en grand secret sur les avocats, on règle ses comptes entre magistrats, on s'accuse mutuellement d'avoir exercé des pressions. Autant dire que la magistrature fait tout ce qu'il faut pour rendre impossible de lever le doute sur son impartialité. Et dans une démocratie, c'est une entaille très grave au contrat de confiance des citoyens.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Votre édito, c'est tous les matins sur Europe 1, juste avant 8h.
Europe 1.
À 8h, le journal François Geffrier, la météo avec Laurent Cabrol sur Europe 1.